Selon l'Observatoire du littoral, l'INSEE, plus de 60% de la population mondiale vit dans la zone côtière. En effet, l'océan couvre 71% de la surface de la Terre et contient environ 97% de l'eau de la planète. Analyser les courants marins est important pour protéger la population vivant près des littoraux, pour leur permettre notamment de se mettre à l'abri en cas de catastrophe naturelle, comme le tsunami en 2004, ou comme les cyclones. Mais cela permet également d'évaluer la propagation des déchets dans les océans et d'évaluer l'impact de l'évolution de l'océan sur les animaux qui interagissent avec cet écosystème, tout comme on peut analyser l'impact de la déforestation sur les espèces qui dépendent des forêts pour survivre.
Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche.
Et moi, Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'images et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute!
Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on peut simuler les courants marins et l'écosystème océan avec Ronan Fablé, professeur à l'IMT Atlantique. Après une école d'ingénieur en aéronautique, SupAéro, il a obtenu un doctorat en traitement du signal et télécommunications. Il est également impliqué dans des missions éducatives pour sensibiliser les collégiens et les lycéens aux problèmes de l'océan. Bonjour Ronan.
Bonjour Stéphanie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton sujet de recherche sur les courants marins, s'il te plaît ?
Alors, effectivement, je m'intéresse à l'observation et à la surveillance des océans, en particulier aux courants marins, et avec un angle de recherche un peu spécifique qui est autour de l'utilisation, l'exploration des méthodes d'intelligence artificielle pour améliorer nos capacités d'observation, simulation, surveillance des océans.
Ok. Alors, justement, est-ce que tu peux nous préciser quel est l'enjeu de la simulation des courants marins ? À quoi ça sert ?
Alors, il y a deux dimensions, je pense, qui sont importantes. Il y a l'océan comme composante du système Terre, et dont je pense tout le monde sait que l'océan joue un rôle clé dans la régulation du climat. Et parmi les paramètres et composantes fondamentales de l'océan, la composante physique, et en particulier les courants marins, donc qui définissent la circulation à l'intérieur de l'océan, qui connectent quelque part les différentes parties de l'océan. Donc, par exemple, les courants jouent un rôle fondamental les déplacements des organismes marins. Par exemple, un exemple peut-être qui est emblématique, c'est les anguilles qui naissent dans la mer des Caraïbes, par exemple, et à travers les courants vont être transportées jusque sur les côtes européennes. Donc on fait référence à des aspects de connectivité, par exemple. Donc, les aspects courants marins et compréhension des courants marins sont fondamentaux pour comprendre ces aspects connectivité sur des espèces marines. J'ai parlé du climat, et puis il y a un autre volet sur l'océan, c'est aussi un lieu, un espace pour des activités humaines, par exemple le trafic maritime. Et de la même manière, ou des activités offshore, on parle beaucoup de l'hydrolien offshore, des énergies marines renouvelables. Et le courant fait aussi partie des mesures ou des caractéristiques importantes à observer, à mesurer ou à simuler justement pour... par exemple, optimiser un trajet d'un navire pour optimiser, par exemple, une consommation énergétique. Pour prendre des exemples particuliers, ça peut être aussi pour des opérations de maintenance en mer, c'est également important d'être capable de prédire les conditions de courant ou d'état de mer sur une zone particulière.
D'accord.
Voilà pour quelques exemples. J'aurais pu prendre des exemples liés à l'acoustique également, on en reparlera peut-être... plus tard, mais la propagation des sons sous l'eau, qui est un des moyens de communication importants, par exemple utilisé par les cétacés, est aussi conditionné, impacté par les conditions de courant, entre autres choses.
Ah oui, effectivement. On ne pense pas toujours à cette application, mais effectivement. Alors justement, comment est-ce qu'on peut reconstruire les modèles physiques ? Alors, il y a très très longtemps, je me souviens d'avoir étudié des équations qui s'appelaient les équations de Navier-Stokes, oui, pardon. Je me rappelle avoir étudié les équations de Navier-Stokes dans un cours de mécanique des fluides. Est-ce que ce genre de modèle, c'est suffisant pour reconstruire les modèles physiques ou bien est-ce qu'il faut pousser plus loin ? Et si oui, comment ?
Alors, dans le domaine des géosciences et de l'océanographie, on parle d'assimilation de données. En fait, on a deux grandes classes d'outils. On a des moyens d'observation. Alors typiquement, ça peut être des mesures en mer, ça peut être des bouées in situ, par exemple, qui vont mesurer des paramètres géophysiques, la salinité, la température ou des courants, on en a parlé. On a aussi des moyens satellitaires d'observation, de satellites qui vont permettre de mesurer depuis l'espace un certain nombre de paramètres à la surface de l'océan, à nouveau température, salinité, courant. Donc ça, c'est les capacités d'observation de l'océan, de mesure de certains paramètres. Et puis un autre volet, c'est plutôt le développement des méthodes de modélisation numérique des océans, donc qui sont basées effectivement sur la résolution des équations physiques connues, les équations de Navier-Stokes, qui est un problème complexe, mais normalement on a des outils de simulation, de modélisation pertinents, et donc se pose naturellement la question de pouvoir intégrer les données d'observation pour contraindre les simulations numériques ou les modèles numériques. Et donc, voilà, cette classe, le problème, utilise des méthodes dites d'assimilation de données. Donc, qui seront, voilà, en résumé, la capacité à intégrer dans des modèles des données d'observation. Et nous, ça fait partie des sujets effectivement qui nous intéressent de manière plus spécifique, avec cet angle autour de l'apport de méthodes d'apprentissage d'intelligence artificielle pour ces problèmes d'assimilation de données. Pour ceux qui auraient des références sur plus peut-être sur des aspects de traitement d'image, traitement du signal, on parle aussi de problèmes inverses. C'est-à-dire la capacité à reconstruire un état, ici l'océan, à partir d'un ensemble de données d'observation, donc la partie observée, et ça se fait généralement sur la base d'une connaissance a priori, qui est ici le modèle physique qui décrit l'évolution de la dynamique de l'océan.
Ok, parce que c'est vrai quand on
et donc,
a l'école...
Par rapport à la question...
Désolé. Vas-y.
Alors peut-être, par rapport à la question de est-ce que les modèles physiques sont suffisants, donc les équations... Voilà, les équations physiques sont connues, et en même temps, il y a une telle complexité en termes de diversité de processus physiques, de diversité d'échelles qui sont mis en jeu dans la circulation des océans. Et finalement, on a assez peu de données d'observation par rapport à la complexité du système, ce qui fait que la reconstruction et la capacité à prédire l'évolution du système océan, qui est un système chaotique, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et donc, voilà, une partie des recherches, c'est de peut-être trouver des moyens, des modes de représentation, des formes de modèles qui vont représenter certaines caractéristiques, certains processus qui soient peut-être plus adaptés aux données d'observation pour avoir une meilleure prédiction. Et on parle d'incertitudes, donc sans doute pour réduire les incertitudes dans l'aspect simulation, prédiction, reconstruction de paramètres de l'océan.
D'accord. Parce que c'est vrai que quand on est à l'école, on nous donne quelques... principe à suivre en disant voilà, dans telle situation on utilise tel type d'équation, et puis une fois qu'on a choisi l'équation qui doit modéliser, on doit aussi introduire quelques conditions d'application en disant voilà, dans tel cas on utilise tel paramètre, etc. Et finalement, quand on regarde sur le terrain les vraies données, je pense qu'il doit arriver quand même des moments où cette équation n'est pas exactement précise. C'est pour ça qu'on essaye d'introduire les données, ou est-ce qu'on essaye de calquer les données pour qu'elles répondent au mieux à l'équation?
Alors, c'est l'enjeu, c'est la question. Et notamment parce que dans les systèmes physiques comme l'océan, il y a également des forçages qui ne sont pas que la composante océan, mais par exemple le forçage, la circulation atmosphérique, les vents vont impacter la circulation de l'océan. Et on n'a pas non plus une connaissance exacte de ces éléments, évidemment. Et donc, ça introduit forcément une incertitude. Et donc, il y a à la fois la question sans doute du modèle, du niveau d'approximation du vrai système que fournissent les équations, en tout cas dans leur forme numérique discrétisée, ça c'est une question, et il y a aussi toutes les incertitudes sur toutes les variables qui agissent sur l'océan et qu'on ne connaît pas parfaitement. Et donc ça c'est vraiment lié à la complexité du système, et effectivement on a à prendre en compte les incertitudes, et on n'est pas dans un système, à dire jouet, simplifié, pour lequel on est idéalisé, pour lequel on saurait qu'on connaît complètement les entrées, complètement le modèle, au sens d'une certitude qui permettrait d'avoir une prédiction parfaite. Alors, on est dans un système réel pour lequel on connaît imparfaitement les entrées, on n'observe pas toutes les composantes, et probablement, effectivement, qu'on a aussi un certain niveau d'approximation dans le modèle qui est considéré pour représenter la dynamique de l'océan. Et donc, ça fait forcément qu'en sortie, on a voilà, un certain niveau d'incertitude et qu'on cherche à le réduire le plus possible. Et c'est dans cette combinaison entre observation et le côté très partiel des observations sur l'océan, on pourra peut-être y revenir, mais on observe principalement la surface des océans, qui est quand même un objet assez volumineux et en 3D, mais on a assez peu d'informations, d'observations directes sur l'intérieur de l'océan. Voilà, donc on a des données assez lacunaires, partielles, et voilà, On a parlé de l'aspect approximatif de la représentation. Bon, ça, c'est sur ces aspects d'interaction là que les aspects intelligence artificielle paraissent pertinents et commencent à fournir des réponses qui sont intéressantes par rapport à un état de l'art actuel qui est plutôt basé sur de la modélisation physique plus classique.
Ok. Alors, ce que tu m'expliques, en fait, ça me fait penser un peu à ce que j'avais vu dans la saison 3 de l'épisode qui portait sur la santé. La saison 3 de ce podcast qui portait sur la santé, qui parlait de jumeaux numériques qui sont censés représenter le corps humain pour simuler les interactions médicamenteuses. Est-ce que les équations existantes peuvent permettre de réaliser une sorte de jumeau numérique du système océan, et cela permettrait en fait de se dire, voilà, dans 3 jours, si on a tel modèle, alors voilà ce qui pourrait se passer, tout en étant vraiment dans la prédiction, ou alors... Est-ce que ce système a évolué depuis la formulation des équations, par exemple ?
Donc, on utilise aussi actuellement, ça fait partie un peu des buzzwords, le terme de jumeaux numériques sur jumeaux numériques de la Terre ou jumeaux numériques des océans. Peut-être pour les auditeurs ici, en fait, quand on parle de modèle climatique du GIEC, on peut considérer que c'est déjà c'est un modèle numérique qui représente le système Terre, qui permet de réaliser des projections. Voilà, et on sait que ce modèle est une forme d'approximation de la réalité. Et voilà, à un certain niveau, et on peut discuter du niveau d'incertitude ou niveau d'approximation. Donc ça se transpose complètement effectivement à l'océan, et on peut voir les jumeaux numériques dans ce cadre-là. Et sur des systèmes comme le corps humain ou la santé, bon, étant donné également la complexité du corps humain, je suis pas du tout spécialiste, mais on est aussi sur un jumeau au sens où ça permet de représenter certains processus, avec également un certain niveau d'approximation. Donc, je pense qu'effectivement, les mêmes idées se transposent effectivement sur le système Terre et sur le système océan. Et ces termes de jumeaux numériques, sans doute, ils visent à, dans leur expression, à peut-être mettre plus en avant ce lien entre système d'observation et système de modélisation. Et puis, il y a aussi l'aspect hybridation actuellement entre modélisation physique plus classique et approche plus basée données, apprentissage. On voit qu'il y a un mouvement assez important, justement, un peu de convergence, où on cherche à mieux intégrer les différents outils possibles. Et donc, les jumeaux numériques, c'est le terme actuel pour essayer de parler de ces sciences un peu qui se mettent en place sur la base quand même de briques qui ont quand même la modélisation physique des océans, les systèmes d'observation sur l'océan, c'est quand même plusieurs décennies de recherche, c'est pas quelque chose qui est né avant-hier. Voilà, il y a un historique, et donc il y a une évolution, et on souhaite toujours, on a besoin aussi d'aller plus loin dans nos capacités de simulation, prédiction, par exemple sur les vagues de chaleur, sur l'évolution du climat, il y a des enjeux importants sur la compréhension des incertitudes à nouveau.
Justement, pour représenter l'océan, tu nous disais aussi qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens de représenter l'intérieur de l'océan en soi, mais actuellement, avec quelles données est-ce que vous travaillez pour décrire le système océan et prédire son évolution ?
Alors, comme j'en parlais tout à l'heure, on a des moyens satellitaires d'observation des océans. Donc ça, c'est une grande classe. On y reviendra juste après. Puis il y a aussi des moyens in situ. Donc typiquement, ça va être des bouées. On peut avoir des systèmes dérivants. On peut avoir des systèmes aussi de profileurs qui vont plonger dans l'océan pour faire des mesures sur des profils verticaux et remonter. Donc on a développé tout un tas de technologies. Finalement d'observation soit in situ, soit à distance de l'espace, notamment des océans. Mais il faut voir que globalement, par rapport à l'espace de l'océan, alors je ne saurais pas dire le volume en kilomètres cubes, je ne saurais pas le volume, mais c'est immense. Et par exemple, par rapport à l'atmosphère, effectivement, on en a une vision qui est beaucoup, beaucoup plus partielle. Par exemple, les systèmes satellitaires sur l'atmosphère permettent quand même d'avoir une vision assez dense en espace-temps, parce qu'on est capable de faire des mesures d'information sur toute la verticale. Ça, c'est quelque chose qui est pas possible dans l'océan. Donc, sur l'océan, peut-être pour prendre un exemple, nous, qu'on travaille, il y a des mesures qui sont des mesures altimétriques, donc qui permettent à partir de satellites qui ont des capteurs de type radar, en fait, qui vont permettre de mesurer la hauteur de la mer, et qui sont des satellites défilants. Donc, à l'échelle d'une journée, on va échantillonner, on va faire des points de mesure sur à peu près 1%, quelques pourcents de la surface de l'océan. Voilà, pour situer les choses. Donc, et pour ce quelques pourcents de points à surface de l'océan, on va faire une mesure de hauteur. Cette mesure de hauteur, en fait, elle est liée au courant marin à travers un gradient. Donc la pente va fournir une indication des courants. Et sur ces exemples-là, étant donné le côté parcellaire de, j'ai dit quelques pourcents, ça permet typiquement de reconstruire des courants marins à des échelles de 100 km en espace et de l'ordre de la semaine en temps. C'est-à-dire que à travers de cette seule donnée, en fait, toute l'évolution plus rapide de l'océan, sur à l'échelle de la journée, par exemple, au moins, peut pas être reconstruit, perçu directement. Et de la même manière, toutes les structures dans l'océan, tous les processus à des échelles plus petites que 100 km peuvent pas être directement observés. Alors ça, voilà, peut-être pour dans l'océan, en fait, comme dans l'atmosphère, je pense que tout le monde, a vu sur les cartes météo des anticyclones et des dépressions, donc des structures tourbillonnantes qui se déplacent. Donc, dans l'atmosphère, en espace, on est sur des échelles de plusieurs de milliers de kilomètres en espace. Et en temps, une dépression, ça traverse l'Atlantique, là, en moins d'une semaine. En Bretagne, on les voit assez vite arriver, hein. Donc, les ordres de grandeur sont ceux-là. En fait, dans l'océan, comme c'est un système avec une haute densité, on va être sur des échelles spatiales plus petites. Donc typiquement, on va être plutôt sur les tourbillons. On va également avoir des tourbillons avec des échelles spatiales de, on va dire, quelques kilomètres à quelques centaines de kilomètres. Donc ces tourbillons, ils existent dans l'océan en plus de peut-être de courants marins qui sont plus connus, comme le Gulf Stream, qui sont vraiment des courants très plus grande échelle, qui sont connus, je pense, plus largement. Mais il y a également ces tourbillons qui jouent un rôle clé dans les échanges, dans la structuration de la biologie de l'océan. Et donc par exemple, tous les tourbillons dont on sait qu'ils sont dans l'océan, mais qui sont plus petits que 100 km de rayon, par exemple, ils sont actuellement très mal informés, très mal observés. Et donc, voilà, ça, c'est une des limites des systèmes d'observation actuels. Donc, actuellement, il y a des développements pour de nouvelles stratégies d'observation, de nouvelles missions satellitaires, justement, pour avoir des mesures plus précises. Donc ça, c'est un exemple sans doute assez emblématique de vraies différences. Tout le monde a vu aussi, même si c'est un peu extrême dans des films, sans doute la capacité à lire l'heure sur une montre de l'espace. Et c'est vrai qu'on est capable d'avoir des résolutions sous-métriques en observation terrestre. Mm-hmm. Sur l'océan, si on arrive au kilomètre, pour la plupart des paramètres, c'est déjà quelque chose c'est déjà considéré comme la haute résolution. Donc, la haute résolution sur l'océan, c'est pas la haute résolution sur le domaine terrestre. On est sur quelques ordres de grandeur au-dessus.
Alors, je me pose la question, est-ce qu'on pourrait pas essayer de compléter les données manquantes par des modèles, par exemple, les GAN? Qui sont connus pour justement générer des données. En même temps, on se pose souvent la question d'utiliser du deep learning parce qu'aujourd'hui, avec les enjeux du climat, on se pose la question, est-ce que ça sert vraiment d'utiliser des machines de calcul super puissantes qui consomment beaucoup d'énergie? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes d'approximation, de simulation pour compléter justement ces données manquantes?
Alors, il y a effectivement, nous, ça fait partie des sujets de recherche qu'on explore. Donc, c'est des problèmes d'interpolation, effectivement, parce que on a des données, j'ai dit quelques pourcents, et effectivement, on va être capable d'informer, de donner une valeur de courant sur tous les points de l'océan, alors que la plupart des points ne sont pas observés sur une journée donnée. Donc, la manière dont sont abordés ces problèmes, c'est ce que je mentionnais précédemment, c'est l'assimilation de données. Donc, pour boucher les trous, on va étudier classiquement l'information fournie par un modèle. Mm-hmm. Et donc là, il y a deux classes d'approches. Soit on a un modèle plutôt statistique, donc y compris, éventuellement, on va aller vers de l'IA. Donc, on va apprendre ce modèle plutôt à partir des données pour savoir comment extrapoler sur les données manquantes. Puis, une autre classe d'approche est plutôt des modèles basés sur la physique. Et donc là, pour le réaliser, on va se donner généralement un modèle qui va modéliser la circulation océanique de l'ensemble de l'océan sur l'ensemble des paramètres pour, par exemple, reconstruire les courants à la surface. Donc cette option, elle a aussi un coût de calcul qui est conséquent parce qu'on va vraiment considérer la reconstruction de l'ensemble du système océan. Donc bien au-delà juste de l'aspect interpolation, par exemple, d'un courant à la surface de l'océan. Donc il semble qu'on le dit comme ça, il y a sûrement un point d'équilibre entre les deux, donc à optimiser la complexité de la méthode d'interpolation pour tirer au mieux parti des données d'observation. Et donc, voilà, probablement que les méthodes d'apprentissage ici ont un rôle à jouer. Et il faut sans doute découpler un peu le côté coût de l'apprentissage, notamment lié au GPU, et méthodologie associée, qui est que voilà, dans les méthodes d'apprentissage, les méthodes d'IA, par rapport au... il y a ce qu'on appelle les... Voilà, c'est des méthodes dites différentiables en apprentissage profond, et qui permettent typiquement de calculer des gradients sur n'importe quelle fonction. Et ça, c'est les outils qui sont utilisés dans le domaine de l'assimilation de données, mais qui nécessitent aussi des développements extrêmement importants, alors que c'est quelque chose qui est intrinsèque des méthodes d'apprentissage. Donc, d'un point de vue méthodologique, les librairies logicielles d'apprentissage profond permettent de mettre en œuvre de manière plus simple les outils d'assimilation de données. Donc, et ça, c'est indépendant du fait que ce soit GPU, CPU. Donc voilà, il y a aussi le fait que ces outils d'IA, c'est aussi un cadre à la fois numérique et de modélisation qui est, on va dire, plus sympathique et plus simple en fait de mise en œuvre de stratégies d'assimilation de données classiques. Donc l'aspect hybridation est vraiment pertinent. Alors évidemment, on se pose ces questions autour de l'optimisation des coûts. Et c'est une vraie question. Moi, à titre personnel, je ne sais pas répondre actuellement. Ça coûte plus cher de faire tourner un modèle basé sur l'apprentissage sur un petit GPU, et quel est le coût comparé par rapport à une assimilation de données qui est basée sur un modèle de circulation climatique qui nécessite des infrastructures du type calcul haute performance, HPC, qui a aussi un coût. Donc je pense qu'actuellement on ne sait pas complètement répondre à ces questions, mais il semble assez évident qu'on va hybrider que les deux vont hybrider, et que le calcul haute performance va aussi bénéficier d'architecture GPU et pas uniquement de calcul distribué CPU, ou que l'IA sera aussi peut-être distribuée sur des CPU et pas simplement sur du GPU pour avoir peut-être des coûts énergétiques moindres. Donc voilà, c'est des questions qui sont, je pense, assez ouvertes.
Effectivement. Alors là, on a parlé des données, on vient de parler un peu de l'infrastructure qui permet justement d'héberger les modèles d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus concrètement des algorithmes utilisés, quelle famille ils appartiennent, comment est-ce qu'ils sont validés ?
On va retrouver sur nos problèmes, on va retrouver sur les classes de méthodes d'apprentissage qui sont purées, on va retrouver les... on peut retrouver la plupart des méthodes ou des classes de modèles d'apprentissage profond qui sont explorées. Donc, tu as parlé des GAN, ça fait partie des méthodes qui peuvent être explorées. Nous, on se focalise beaucoup sur des aspects problème inverse, que j'ai mentionné, parce qu'on généralement on veut passer de données d'observation partielles, incomplètes, à une information géophysique. Et donc, on est sur des classes de problème inverse. Et donc, il y a également beaucoup d'approches qui sont liées au lien entre méthode d'apprentissage et formulation de problèmes inverses basés sur des modèles et sur l'hybridation entre les deux. Et donc, peut-être sur des éléments en particulier, nous, on explore des approches qui cherchent vraiment à définir des méthodes neuronales qui sont formulées comme des problèmes de minimisation de méthodes variationnelles. Donc, des méthodes qui sont utilisées en assimilation de données, qui ont été très explorées peut-être une vingtaine d'années dans le domaine du traitement d'images sur différents types de problèmes inverses. Et la raison pour laquelle on explore cette classe d'approche, c'est parce que justement, on a cette capacité à faire le lien entre de la modélisation physique. On reste sur des formulations qui sont compréhensibles par des auditoires de physiciens ou de mathématiciens qui travaillent classiquement sur ces problèmes par rapport à des... Et qui bénéficient aussi des apports des méthodes d'apprentissage. Donc ça, c'est c'est sur les aspects problèmes inverses.
Est-ce que tu pourrais nous simplifier la définition de ce que c'est que la résolution des problèmes inverses, s'il te plaît ?
Peut-être pour revenir sur l'exemple des courants marins, j'ai dit que ce dont on dispose comme observation, c'est des mesures sur des points à surface d'océan, de hauteur de mer. Donc on a finalement une carte sur laquelle la plupart des points, on n'a pas d'information, puis quelques points, on a une valeur... qui est la hauteur de la mer à cet endroit-là. Et on veut passer de cette carte, avec des trous finalement, à une carte qui serait complète, où en chaque point, on aurait la valeur de hauteur de mer. Et on veut faire ça sur des séries temporelles. Et donc, on parle de problème inverse parce qu'on veut passer de l'observation avec des trous à la donnée complète. Et on parle de problème inverse parce qu'on parle d'inverse par rapport au modèle d'observation, si c'est le contraire. C'est-à-dire que si je connais mon système, mon état de l'océan à la surface, ben je vais être capable de prédire ce que verra le satellite. Et donc ça correspondrait à ce que va observer le satellite si je connais le système océan. Et ça, c'est ce qu'on appelle un modèle d'observation. Et donc, être capable d'inverser le modèle d'observation, donc de passer des observations cette fois-ci l'état océan, la surface océan, c'est ce qu'on va appeler résoudre un problème inverse. Et donc, pour résoudre ces problèmes inverses, classiquement, ils sont abordés comme des problèmes de minimisation. Donc, on va chercher la solution. Donc, on va chercher à trouver la surface d'océan qui va être le minimum d'une certaine fonction qui va traduire généralement un compromis entre l'adéquation aux données observées, le fait qu'on soit proche, le plus proche possible des observations, et qui va aussi traduire le fait que la surface de l'océan respecte un certain nombre de propriétés physiques qui va souvent être formalisée à travers une équation physique. Et donc, voilà, peut-être. Donc, problème inverse, c'est passer d'observation à un état océan, dans notre cas. Et ensuite, ces problèmes inverses sont formulés comme des problèmes de minimisation. Et donc, sur cette base-là, nous, maintenant, on cherche à faire le lien avec des méthodes d'apprentissage qui vont permettre typiquement d'accélérer les étapes de minimisation et également de pouvoir apprendre la représentation, ce qu'on appelle l'a priori. Donc, on va, plutôt que de se donner une équation physique en la supposant connue, on va pouvoir apprendre un équivalent de cette équation directement à partir des données. Et donc, c'est là qu'on parle généralement d'a priori. C'est la représentation, en fait, c'est une forme de représentation numérique de ce qu'est une surface de l'océan, par exemple. Parce qu'une surface de l'océan, je l'ai dit, il y a des tourbillons, par exemple. Donc, ça a une forme, la surface, elle respecte certaines propriétés. On voit des tourbillons, par exemple, donc il y a certains types de structures. Et par exemple, c'est assez différent d'un relief avec des montagnes. Hein, ça ne ressemble pas à un relief avec des montagnes. Donc, on va trouver des modes de représentation de cette forme de relief qui sont finalement assez doux, typiquement, de manière numérique. Et c'est ça, là-dessus, qu'on va pouvoir avoir un apport des méthodes d'apprentissage.
Donc là, pour faire une représentation, enfin, une simulation réaliste du modèle, la météo, à mon avis, joue un rôle important. Tu l'as dit tout à l'heure, le vent a un impact évidemment sur le courant marin, la survenue de cyclones aussi. Est-ce que vous utilisez les modèles de météorologues ou est-ce que vous êtes amené à faire vous-même vos propres estimations justement du vent, des conditions cycloniques, etc.
Peut-être sur le premier point, j'ai mentionné pour reconstruire certains paramètres typiquement la surface de l'océan, dans les variables qui vont de conditionnement ou de forçage, donc qui seront importantes de fournir en entrée d'un modèle. Et effectivement, il y a des variables atmosphériques comme le vent, par exemple. On a parlé des courants, température. Donc, effectivement, pour un certain nombre d'applications, on va utiliser des sorties de modèles numériques de météorologie qu'on va nous prendre en entrée ensuite, par exemple, pour prédire ou reconstruire des courants. Ça, c'est une classe de problèmes. Et puis, on a aussi des classes de problèmes où, effectivement, à partir de mesures satellitaires à la surface de la mer. Donc, j'ai deux exemples, en fait. J'ai celui-là où, à partir d'observations SAR, c'est certains capteurs radars satellitaires qui mesurent la rugosité à la surface d'océan. Puis, j'ai un autre exemple qui serait plutôt l'écoute des bruits sous-marins. À partir de ce type d'informations, on va pouvoir chercher à reconstruire le vent à la surface de l'océan. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'utiliser le fait qu'effectivement, il y a une relation où le vent à la surface va impacter l'état océan de différentes manières. Et donc, que quand on observe certains paramètres d'océan, cette fois-ci, on va pouvoir remonter à des paramètres de vent. Donc à nouveau, c'est un problème de type problème inverse. Hein. Notre observation là, c'est une quantité qui est liée à l'océan, soit de la rugosité à la surface de l'océan, soit les sons sous-marins. Et en fait, à partir de ces observations, on va chercher à reconstruire des vents à la surface des océans. Et à nouveau, le vent, même si j'ai dit que pour la météo, on avait des mesures beaucoup plus denses et beaucoup mieux résolues, En fait, les vents, mesurer des vents avec haute résolution spatiale, c'est un problème qui est compliqué. Et à nouveau, les mesures type d'observation SAR, par exemple, sont un des moyens d'avoir des mesures très haute résolution spatiale, donc quelques dizaines, centaines de mètres, pour lequel on n'a pas forcément de moyens autres d'observation. Donc voilà, peut-être pour. Donc il y a aussi une capacité de l'océan, quelque part, à travers certaines propriétés, à informer la météo locale, comme l'exemple des vents marins.
Alors, pour résumer, on peut décrire l'océan selon différents paramètres. Tu as parlé de la hauteur de l'océan, des courants, la variation de l'altitude des vagues, la température, la salinité. Mais ces informations sont lacunaires, localisées, mais obtenues avec des capteurs de précision complémentaires, en fonction de la surface, de la profondeur. D'une certaine manière, on peut parler peut-être d'une étude multimodale. Justement, comment est-ce que vous gérez cette complémentarité d'informations ?
Alors, c'est effectivement un aspect qui est aussi extrêmement intéressant d'un point de vue scientifique pour nous, parce que on a effectivement accès à différentes sources de données différentes. Alors, ça peut être différents capteurs de satellitaires qui vont avoir différents modalités d'observation de l'océan. On peut avoir du radar, des capteurs optiques, des capteurs infrarouges, des capteurs micro-ondes. J'ai parlé des sons sous-marins. Donc ça, en fait, c'est des observations de différentes propriétés de l'océan et donc qui sont souvent liées à plutôt liées à certains paramètres physiques particuliers, donc les courants, les vents, j'en ai parlé, ça peut être la température. Et en même temps, ces différents paramètres vont avoir des relations entre eux, vont pas être indépendants. Donc par exemple, il y a des relations quand on regarde des cartes de température à surface d'océan, on observe bien également, on arrive à avoir distingué les tourbillons, c'est-à-dire qu'ils traduisent aussi d'une certaine manière les courants marins. En même temps, d'un point de vue de la physique des océans, c'est pas si facile de définir les relations qui diraient directement une température de la surface d'océan à un courant marin. Mmh. Et c'est là que y a un intérêt des méthodes d'apprentissage, effectivement, à envisager des solutions multimodales où réellement on va chercher à tirer parti de différentes sources de données. Donc nous, par exemple, on a des exemples où on arrive réellement à augmenter la résolution spatio-temporelle des courants marins en combinant les mesures de hauteur de la mer, les mesures altimétriques dont j'ai parlé précédemment, et des mesures satellitaires, des cartes de température à la surface de l'océan. On est capable d'extraire ou de comprendre ce qui, dans les cartes de température à la surface de l'océan, peut informer un courant et des situations pour lesquelles, en fait, on n'a pas nécessairement de modèle physique explicite qui permettrait de le réaliser. Donc voilà, et donc effectivement, ce caractère multimodal, effectivement, c'est quelque chose vers lequel on souhaite vraiment aller. Et là, voilà, à nouveau, en l'abordant d'un point de vue modélisation physique, c'est des problèmes qui sont vraiment compliqués. Et comme sur d'autres, voilà, on parlait tout à l'heure de la santé, sur les aspects desquels on a aussi tout un tas de capteurs différents, et les méthodes d'apprentissage permettent aussi beaucoup de bénéficier de la capacité à extraire des informations de modalités différentes pour informer au mieux, reconstruire au mieux ou simuler au mieux un paramètre donné. Ces aspects-là se transposent vraiment sur l'océan et voilà, devraient ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux champs sur ces aspects.
Alors, pour ma propre curiosité, est-ce que l'analyse de l'océan, ça vous amène aussi à analyser le mouvement des animaux, comment ils interagissent avec l'écosystème ? Par exemple, quand il y a une marée noire qui se propage, ou inversement, est-ce que d'intégrer le mouvement des animaux suivant la saison de l'année, cela peut contribuer d'une certaine manière à modéliser les courants marins ?
Alors, il y a un aspect sur lequel nous, on ne travaille pas directement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est effectivement, il y a parmi les moyens d'observation de l'océan, il y a aussi le fait d'utiliser les animaux. Et il y a un certain nombre d'animaux marins qui sont instrumentés. Donc, par exemple, les éléphants de mer dans les mers du Sud sont instrumentés. Donc, on va leur mettre sur le dos des capteurs et qui vont enregistrer des données, température, salinité, courant, densité, voire des hydrophones. Et donc, quand on aura récupéré ces données, en fait, on va pouvoir reconstruire en fait les propriétés physiques de l'océan sur les endroits où sont passés ces éléments marins. Donc ça fournit des données complémentaires par rapport aux autres sources de données dont j'ai parlé. Ça, c'est un aspect. Et nous, il y a un autre aspect, effectivement. En fait, on s'intéresse à des aspects de système dynamique, et qui est l'océan. Et pour partie, certaines des activités de recherche aussi se transposent aussi à la modélisation plutôt de données trajectométriques, donc de déplacement. Et nous, on s'intéresse donc à la fois au déplacement des animaux et notamment des oiseaux marins. Et puis, on a une autre application sur le trafic maritime, là, plutôt les bateaux. Mais pour être sur les oiseaux marins, effectivement, on s'intéresse à la capacité à modéliser, simuler le comportement des oiseaux marins, typiquement sur les périodes de nidification. Et avec l'enjeu également de pouvoir comprendre quels sont les paramètres ou les conditions de l'écosystème ou les paramètres clés de l'écosystème qui impactent et qui conditionnent les déplacements des oiseaux marins, et également quelle est la relation entre les mouvements et déplacements, les stratégies de déplacement des oiseaux marins et les ressources de poissons. Qui sont l'alimentation des oiseaux marins. Donc les oiseaux marins en période de nidification, la raison principale pour laquelle ils se déplacent, c'est d'aller manger, d'aller faire leurs courses. Et donc ils vont sur des zones particulières. Donc il y a une relation assez directe normalement entre les ressources de poissons et leur distribution en espace et en temps et la manière dont les oiseaux vont se déplacer. Donc, par exemple, les oiseaux vont devoir aller plus loin. Si les stocks de poissons sont plus loin de l'île, ils vont devoir aller plus loin. S'ils sont plus abondants, ils iront peut-être moins loin, ce sera plus distribué. S'il y a moins de poissons, on va sans doute avoir des plus petits bancs. Et donc, on aura des comportements différents. Et donc, ça, c'est des choses qu'on peut chercher à simuler, à modéliser et à comprendre. Et à nouveau, nous, on cherche à les aborder avec des outils d'apprentissage. Et là, les outils naturels sont des outils de type GAN. Justement, qui sont des bons outils pour essayer de simuler des comportements en ayant à disposition en fait un ensemble d'exemples de trajectoires d'oiseaux qui sont issus de campagnes de marquage avec des petits GPS. Donc là, à nouveau, on instrumente les oiseaux avec des tout petits GPS qui pèsent quelques grammes et donc qui permettent d'acquérir ces exemples de trajectoires où un oiseau part d'une colonie et revient. À partir d'un ensemble d'exemples, typiquement quelques dizaines, quelques centaines d'exemples, on cherche à apprendre un modèle qui est capable de simuler, de reproduire ce type de comportement.
D'accord. Alors là, on a parlé évidemment du côté scientifique, de l'aspect recherche, mais est-ce que tu pourrais aussi nous parler des personnes qui sont intéressées par ce genre de solutions proposées par Océanix ? Quelles sont les structures qui vont potentiellement interagir avec vous ? Et puis aussi, dans quel domaine est-ce que cette solution va apporter une réelle plus-value ?
On va avoir, nous, en termes d'interaction, on est sur des activités de recherche qui sont assez fortement interfacées avec l'environnement socio-économique. On a un certain nombre de partenaires industriels sur des activités qui sont liées à l'observation de l'océan. Donc, il y a un certain nombre par exemple, liées au développement de capteurs satellitaires ou à l'exploitation de données satellitaires. On va avoir aussi d'autres partenariats qui sont plutôt liés à par exemple au développement des énergies marines renouvelables pour lequel soit les prédictions des conditions océanographiques, soit des aspects liés à la maintenance offshore par exemple sont d'intérêt. Puis on a également d'autres partenariats qui peuvent être liés plutôt aux aspects surveillance des océans, voire des aspects défense qui pour lequel à la fois les aspects océanographie font aussi on pourrait prendre l'exemple des sous-marins. Pour les sous-marins, c'est important de connaître les conditions de circulation, également les conditions de propagation acoustique sous-marine pour savoir où se positionner, soit pour se cacher, soit pour mieux pour écouter, par exemple. C'est peut-être le type de partenaires qui sont représentatifs de nos activités. Et on a quand même un tropisme qui est plus important sur les aspects océanographie, soit opérationnel ou satellitaire. Et donc, l'enjeu, il y a une structure, par exemple, avec laquelle on collabore, qui s'appelle Mercator Océan International, qui est une structure qui est basée en France, une structure européenne, justement, qui vise à développer des solutions. C'est un peu peut-être l'équivalent de Météo France, mais pour de la prédiction liée aux océans, pour essayer peut-être de simplifier le message. Et donc, l'objet actuellement pour ce type de structure, c'est d'anticiper les évolutions technologiques justement pour améliorer les solutions de reconstruction, de prédiction liées à des paramètres de l'océan. dans les 5 à 10 ans qui vont venir et à l'utilisation des méthodes d'IA. Et actuellement, donc, on est basé, je l'ai mentionné, sur des approches basées modèles physiques et des solutions numériques de type calcul de haute performance. Et là, il y a quand même un consensus que ces solutions vont être assez fortement impactées par les solutions issues de l'IA et probablement l'hybridation entre ces outils. Et donc, nous, on cherche à contribuer à ces développements. Donc après, parler de plus-value. Une plus-value qu'on peut actuellement peut-être espérer, c'est l'exemple des courants marins pour lesquels ces solutions vont probablement amener des gains dans l'amélioration des résolutions spatio-temporelles. Alors, est-ce que ce sera perceptible pour tout un chacun? Je sais pas. Mais on peut avoir des gains qui sont substantiels, probablement. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir d'autres exemples. Il y a d'autres exemples dans la littérature qui émergent sur des dimensions qui sont peut-être également liées à plus à la biodiversité. Justement, les méthodes d'apprentissage plus globalement permettent plus facilement de passer de données d'observation aux paramètres qu'on chercherait à prédire sans nécessairement bien connaître la relation. Et donc, il y a des exemples, par exemple, sur la capacité à prédire plus sur le domaine terrestre actuellement, mais la biodiversité sur une zone à partir d'indicateurs assez globaux, voire directement d'images satellitaires. Il peut se poser la question il y a des développements en cours qui explorent ce type d'aspect pour la biodiversité marine. Et donc, peut-être qu'à terme, on peut imaginer qu'on soit capable de mieux cartographier, mieux capable d'anticiper l'évolution de la biodiversité marine à partir de mesures satellitaires, plus de mesures in situ. Et donc, ça puisse avoir un impact sur la définition ou la gestion des aires marines protégées, par exemple. Donc ça, ça fait partie des questions qui sont assez importantes actuellement, dont on parle. Bon, les AMP, les aires marines protégées, on a pas mal parlé récemment. Les aspects de conservation, de protection de la biodiversité, ce sont des enjeux importants. Et donc, on peut penser qu'il y a des contributions qui vont être liées aux thématiques intelligence artificielle et océan, qui vont contribuer à ces assets. Ce ne sont pas les seules contributions, évidemment, hein, c'est dans un panorama plus global qui va de l'observation jusqu'à ensuite à des aspects plus interaction avec la société, sens humain et social, mais où l'IA aura quand même aussi une contribution effective.
Merci pour ces précisions. Cette dernière remarque me permet de faire un lien avec la dernière question de l'épisode qui est commune à tous les intervenants de la saison 4 qui portent sur l'environnement. On sait pour la plupart que la protection de l'environnement est affaire de tous. J'ai une question. Quel geste simple, accessible à tous et pourtant nécessaire, pourrais-tu partager avec nous?
Alors, il y a un geste simple. Je pense que la mobilité, c'est sans doute parmi les gestes les plus simples pour lesquels on peut tous faire des efforts et apporter à la chaîne individuelle. Donc, le vélo ou simplement du télétravail ou pour ceux qui vont en mer, le bateau à voile ou le paddle plutôt que le bateau à moteur. Ça me semble parmi les gestes qu'on peut tous réaliser qui peuvent vraiment avoir des impacts importants.
Et puis aussi, c'est bon pour la santé. Ça nous fait faire un peu de sport.
Également, effectivement. C'est ça. Et par exemple, le paddle, ça permet aussi de mieux voir les fonds marins. Et donc, on a peut-être un peu plus de temps pour en profiter.
Merci Renan pour ta participation. Et puis, évidemment, on te souhaite le meilleur pour le développement du projet Océanis avec ton équipe. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com/saison-4-courant-marin. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site à l'adresse www.horizon-ia.com/contact. Nous nous ferons bien sûr un plaisir de vous répondre. Et avant de vous quitter, voici un proverbe à méditer en lien avec la thématique de l'eau. Quand tu bois de l'eau, pense à sa source. Je vous souhaite une excellente semaine et à jeudi prochain.